Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique en compagnie de Nanit Talani. Cette semaine, nous nous pencherons sur le diabète de type 1. Cette maladie auto-immune se manifeste quand le pancréas devient incapable de produire une quantité d'insuline suffisante pour réguler le taux de glucose dans le sang. Les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline sont détruites par le système de défense ou le système immunitaire de l'organisme. Le pancréas, ayant perdu ses cellules, ne peut plus produire d'insuline. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 77% de diabétiques en général se concentrent dans les pays à faible et à moyen revenu. En Afrique subsaharienne, en plus de l'explosion du nombre de patients, la maladie est déjà responsable de près de 9% des décès. Nous discuterons entre autres des symptômes du diabète de type 1, les complications que cette maladie peut entraîner, la prise en charge, la prévention et ce que l'Organisation mondiale de la santé fait dans la lutte contre le diabète. Nous allons interviewer le docteur Gojka Roglic, experte du diabète à l'OMS à Genève en Suisse.
Le diabète type 1, qui n'est pas du tout traité avec l'insuline, la personne va mourir. L'insuline, si ce n'est pas assez pour régler le niveau de glucose, ils vont avoir des complications.
Le docteur Gojka Roglic répondra également aux questions que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Après cette discussion, vous suivrez dans la deuxième section de cette émission Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Sentez votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici le moment de suivre notre discussion avec le docteur Gojka Roglic sur le diabète de type 1. Bonjour docteur Roglic.
Bonjour.
Docteur, nous allons parler du diabète de type 1, mais nous aimerons d'abord savoir quels sont les types de diabète les plus fréquents.
Le type le plus fréquent de loin, c'est le diabète type 2. Et ça, il y a plus que 95% de tout le diabète. Type 1 est relativement rare en comparaison avec le diabète type 2.
Qu'est-ce qui provoque le diabète de type 1?
Le jour qu'on saura ça, ça sera un prix Nobel. On ne sait pas, en fait, il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses. On sait que c'est en fait une interaction entre la susceptibilité génétique et les facteurs extérieurs dans l'environnement. On ne sait pas exactement lesquels. Ça peut être les virus. Il y a des données qui impliquent les virus dans le risque de diabète type 1. Il y en a des données qui impliquent certaines toxines dans l'environnement. Mais en fait, les données ne sont pas conclusives. Récemment, il y a des rapports dans les journaux scientifiques, dans la recherche, que le risque, dans certaines populations aux États-Unis, par exemple en Australie, le risque de type 1 de diabète a baissé quand les enfants étaient vaccinés contre le rotavirus. Mais ce n'est pas encore vraiment la vraie preuve. Il faut encore de la recherche pour confirmer ces hypothèses.
On a un auditeur, Daniel Lass, depuis la RDC, qui veut savoir si le fait qu'une personne ne retienne pas ses urines pendant plusieurs minutes avant d'aller uriner est signe de diabète. Il veut aussi savoir s'il y a d'autres signes qui peuvent alerter qu'une telle personne souffre du diabète.
Les symptômes sont assez violents. La personne a grande soif. Ils boivent beaucoup. Ils vont beaucoup aux toilettes. Souvent, ils doivent se lever la nuit. Ils perdent le poids. Ils ont souvent des problèmes avec la vue. Et s'ils ne sont pas traités, la situation finit par un coma diabétique. Alors ça, c'est une situation très grave et c'est très difficile à ignorer ce genre de situation. Alors les symptômes sont très, très forts et très prononcés.
Au cas où le diabète n'est pas traité ou bien au cas où il est négligé, quel effet néfaste peut-il avoir à long terme sur la santé du malade?
S'il n'est pas traité du tout, on parle toujours de diabète type 1, s'il n'est pas du tout traité avec l'insuline, la personne va mourir dans très peu de temps.
Qu'arriverait-il au malade s'il arrêtait de prendre son insuline?
Il y a un traitement qui n'est pas assez bon. Cette personne-là, ils ne vont pas mourir parce qu'ils reçoivent quand même de l'insuline. Mais si ce n'est pas assez pour régler le niveau de glucose, ils vont avoir des complications à long terme.
Quelles sont les complications que le diabète non traité ou maltraité peut entraîner?
C'est la cécité, les reins ne fonctionnent plus, perte de vue, les maladies cardiovasculaires.
Est-ce qu'on peut éviter le diabète de type 1? Il y a des moyens de prévention?
Pour l'instant, non. Si on veut éviter le diabète type 1, il faudra savoir la cause. Pour l'instant, on ne sait pas la cause. Il y a, comme j'ai dit au début, il y a plusieurs hypothèses, mais pour l'instant, c'est inévitable.
Une personne diabétique peut-elle mener une vie normale au quotidien?
Tout à fait, oui. Une vie normale peut être avec certaines concessions, parce qu'il y a quand même des injections à faire, il y a le suivi d'urine pour le glucose, d'ajustement de la dose d'insuline. Alors la vie, elle est quand même plus chargée que celle de quelqu'un qui n'a pas le diabète type 1. Mais les gens peuvent avoir une vie normale.
Quelles sont les personnes les plus exposées au diabète de type 1? Les personnes qui peuvent facilement développer le diabète de type 1?
Alors, c'est surtout les populations d'origine européenne et surtout l'Europe du Nord. Ils ont une susceptibilité plus élevée que les autres populations. Les populations en Asie, ils ont nettement moins, le risque est nettement plus bas. Alors, ça parle d'une contribution génétique dans le risque. Les populations africaines ne sont pas sur un très haut risque de diabète type 1, mais il y a quand même des gens qui sont atteints.
Quelle est l'ampleur du diabète de type 1 en Afrique?
En Afrique, on n'a pas beaucoup de données parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur diabète type 1 en Afrique. C'est, on peut dire, selon les données qu'on a, c'est beaucoup plus rare que diabète type 2, mais c'est un problème parce que les gens atteints par le diabète type 1, ils ont besoin de l'insuline, de l'injection d'insuline pour survivre. Et s'ils n'ont pas accès à l'insuline, ils vont mourir dans très peu de temps. Pas le cas avec type 2.
Est-il facile à tous les diabétiques de se procurer de l'insuline, surtout en Afrique?
L'accès à l'insuline est problématique dans tous les pays pauvres. Alors, ça y compris les pays en Afrique. Et aussi dans les pays riches, il y a dans certains pays les populations, les groupes des gens qui sont pauvres, qui ne sont pas couverts par les assurances et qui ont de la peine à aborder leur traitement avec l'insuline.
Comment est-ce que l'OMS aide les gens qui sont pauvres mais ont besoin de l'insuline?
L'OMS, il a le rôle de donner des conseils techniques. On discute, on donne des conseils comment procurer l'insuline moins cher. On discute avec les fabricants de baisser le prix, de donner des conditions plus favorables dans l'achat dans les pays. Et on essaye d'augmenter le nombre de fabricants d'insuline. Pour ça, on espère que ça peut motiver la compétition dans le marché des médicaments.
Au niveau de l'OMS, quels sont les défis que vous avez à relever aujourd'hui face au diabète de type 1?
Un grand défi, c'est en fait améliorer l'accès à l'insuline. Et ça, c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dans l'accès. Alors, on travaille avec les fabricants, on travaille avec les ministères de la Santé pour améliorer la possibilité que tout le monde a accès à l'insuline.
Haruna Traoré veut savoir si une alimentation équilibrée peut faire repousser le diabète ou peut aider à lutter contre le diabète. Il veut aussi savoir s'il y a des aliments qu'un diabétique ne peut pas manger.
Il peut manger tout dans la modération. En général, on recommande d'éviter les aliments sucrés, les boissons sucrées. Mais ça, c'est une recommandation pour tout le monde. C'est pas que pour les gens atteints par diabète type 1. Alors, une alimentation saine, c'est recommandé. Il n'y a pas un régime spécifique pour diabète type 1.
Et pourquoi on leur demande surtout d'éviter le sucre?
Parce que le sucre va très vite dans le sang et ça fait des taux très hauts de glycémie et ça peut provoquer des complications.
L'Organisation mondiale de la santé mène des recherches pour lutter contre le diabète. Actuellement, à quel niveau se trouve-t-elle et que visent les recherches? Est-ce qu'elles visent à mettre au point un nouveau traitement ou bien il s'agit d'élaborer un vaccin contre le diabète?
Il y a des recherches dans les deux directions, le vaccin et aussi le remplacement des pancréas par les cellules qui fonctionnent.
Est-ce que l'OMS travaille aussi avec les gouvernements pour les encourager à adopter des systèmes de santé qui aideraient les diabétiques?
Oui, on a des documents techniques qui donnent des conseils au gouvernement et on est tout le temps en communication avec les gouvernements. Et les gouvernements, ils sont censés appliquer ces conseils si possible.
Docteur Roglic, vous avez un conseil à donner aux personnes qui souffrent du diabète ou à leur famille. Quel serait ce conseil-là?
Le conseil, c'est qu'il faut se engager dans son propre traitement. Il faut se suivre, il faut se soigner, que les solutions et les conseils, c'est pas les conseils de l'équipe médicale sont pas assez. La personne qui a le diabète type 1, elle doit s'en occuper tous les jours.
Merci beaucoup, docteur Roglic.
Merci à vous.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
C'était le docteur Gojka Roglic, experte de l'OMS sur le diabète. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, les blessures sportives. Comment les éviter? Un expert répond à vos questions. La transpiration est un phénomène souvent gênant, mais nécessaire pour notre bien-être. On en parle. Quels aliments conservez-vous au frais et lesquels laissez-vous à l'air libre? Nous avons recueilli votre avis. Enfin, savez-vous que garder le sourire pourrait améliorer votre santé? Nous vous en dirons plus dans notre rubrique MedApptu. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Carnet de santé. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein. Pour les joueurs, c'est un moment très intense où il faut donner le meilleur de soi-même physiquement. Être sportif, c'est aussi tous les risques de blessures que cela implique. Et puisqu'on est en pleine saison footballistique, parlons des lésions les plus fréquentes sur les pelouses, celles qui touchent le genou et la cheville. Yacouba Ouédraogo.
Les athlètes souffrent le plus souvent des entorses de la cheville. Cette blessure intervient lorsque le sportif se tord la cheville. Cette partie du pied se tourne généralement trop vite vers le côté. Cela endommage les ligaments et les tissus qui soutiennent la cheville. À l'intérieur, c'est le ligament deltoïde qui est touché et à l'extérieur, ce sont ceux latéraux qui s'enflamment. L'articulation prend alors un sérieux coup et suscite des douleurs lorsque le sportif atteint tente de mouvoir sa cheville. Cela s'accompagne souvent de gonflements. C'est ce qui est arrivé à la star du PSG Neymar en mars 2018 suite à un tacle au cours d'un match. Ces entorses varient le plus souvent en fonction du sport pratiqué et de la partie du corps qui est le plus sollicitée pour la discipline. Les joueurs de tennis, par exemple, en souffrent au poignet ou à l'épaule. Pour ce qui est du traitement, une fois que le gonflement s'est réduit, le rétablissement nécessite un temps de repos et l'usage d'un support physiothérapeutique pour maintenir la cheville immobile. Les déplacements se font à l'aide de béquilles. Dans certains cas graves, une opération chirurgicale est nécessaire. Autre type de blessures rencontrées chez les sportifs, ce sont celles au genou. Elles sont parmi les plus graves au football et aussi les plus fréquentes. Elles peuvent être causées par un choc direct lors d'un tacle ou un choc indirect, comme un changement brusque de direction ou de rythme de course. L'articulation du genou relie quatre os, le fémur, le tibia, le péroné et la rotule, qui sont calés les uns contre les autres par les ménisques. L'articulation est lubrifiée par du liquide synovial et tenue en place par les tendons et quatre ligaments, les deux latéraux et les deux croisés. Il y a plusieurs types de blessures qui affectent les ligaments, les ménisques ou les tendons. La rupture du ligament croisé antérieur est la plus grave et peut immobiliser un joueur pour 6 à 9 mois. Une chirurgie s'impose souvent.
Pour nous éclaircir sur ce sujet, nous sommes rejoints par Rhys Gully, directeur chez Brambleton One Life Fitness, un établissement sportif basé à Brambleton en Virginie.
Rhys Gully, merci de nous rejoindre.
Merci de me recevoir.
On dit dans le sport que les blessures font partie du jeu. Est-ce que cela veut dire que lorsque nous pratiquons un sport, nous sommes appelés à nous blesser?
Oui, je pense qu'on peut comprendre cela de deux façons. Lorsque vous pratiquez un sport, plusieurs sports sont des sports de contact qui amènent à être en contact avec d'autres joueurs. Je pense donc que c'est inévitable parce que vous ne pourrez jamais empêcher un accident de voiture si quelqu'un souhaite vous punir et le fera. Mais je pense que la meilleure chose à faire est de trouver la bonne méthode pour éviter les blessures. Si quelqu'un nous frappe, ou du moins réduire les effets de blessure, pouvant résulter à la pratique de notre sport. Mais si vous pensez, je dois avoir une blessure au genou parce que je pratique du sport, je dois avoir une blessure à ma cheville, arrêtez de penser de cette façon. Vous ne devriez pas avoir pensé à ça toute votre carrière. Donc, essayons de réduire ces effets de manière à ce que vous ayez une longue et saine carrière positive.
Alors, que conseillez-vous en termes de prévention des blessures? Est-ce de mieux se préparer avant de commencer le sport?
Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je pense que les deux premières choses que nous faisons déjà tout le jour et auxquelles la plupart des gens ne sont pas attentifs, c'est de bien dormir la nuit et d'avoir ensuite une bonne alimentation bien équilibrée. Donc, si vous dormez oui à 10 heures la nuit, vous pourrez récupérer de votre longue journée, qu'il s'agisse du travail ou d'une séance de sport. Et si vous mangez bien, vous pouvez également récupérer et rester hydraté afin que vos os et vos muscles guérissent complètement. Et à partir de là, nous pouvons examiner d'autres aspects, tels qu'un programme d'entraînement équilibré, offrant souplesse et entraînement en force, ainsi que des mécanismes qui renforcent la qualité de nos mouvements et notre forme. Ainsi, nous ne subirons aucune de ces blessures et éviterons de régresser.
Et donc, quelle est la première chose que quelqu'un devrait faire en cas de blessure, s'il n'y a pas de médecin à proximité?
La première chose à faire est d'arrêter immédiatement ce que vous faites qui a causé cette blessure. Donc, si vous jouez au football ou si vous étiez dans la salle de gym, arrêtez de faire cela. Et puis, apportez un support à l'articulation ou à la blessure afin de ne plus utiliser cette partie du corps et la reposer en quelque sorte. Jusqu'à ce que vous puissiez voir un médecin, vous pouvez être proactif, mettre de la glace, élever la blessure au-dessus de votre fréquence cardiaque pour aider la circulation du sang. Et puis, quand vous voyez le médecin, il pourra voir cette blessure et mieux vous traiter.
Et s'agissant des personnes qui ont déjà été blessées dans une partie du corps, par exemple le genou, les chevilles ou les épaules, puisque nous en parlons, s'ils ont déjà été blessés, comment font-ils pour prévenir les traumatismes répétitifs dans cette zone spécifique?
Ok, de plusieurs façons. Tout d'abord, il faut être complètement guéri. Ensuite, nous pouvons nous pencher sur les étapes de prévention concernant le retour au sport ou en salle de gym. Alors, disons que nous nous sommes fait mal au genou. Si ce genou est assez fort, nous pouvons maintenant maintenant mettre en place un programme de réhabilitation axé sur la mobilité des articulations du genou. Nous avons les chevilles sous le genou, les hanches au-dessous du genou. Donc, si nous travaillons sur la mobilité de ces deux zones, cela peut mettre moins de pression sur le genou, permettre de le stabiliser, de stabiliser le corps. Ensuite, continuer le renforcement de la partie inférieure du corps en travaillant sur notre posture pour équilibrer le corps.
Bruce Gulley, merci beaucoup de nous avoir rejoints et de nous fournir toutes ces informations.
Lorsqu'on fait du sport, l'un des phénomènes qui se manifeste durant l'activité physique est la transpiration. La transpiration est une fonction normale et saine du corps, principalement pour refroidir notre corps. Et en dehors du sport, nous transpirons pour bien d'autres raisons, même si parfois ça peut s'avérer gênant.
Transpirer est un phénomène naturel qui permet de réguler la température corporelle. La sueur est évacuée par les pores de la peau. En s'évaporant, elle l'humidifie et refroidit l'organisme. La quantité de sueur que nous produisons dépend du nombre de glandes sudorales que nous possédons. Nous naissons avec 2 à 4 millions de glandes. Les femmes en ont plus que les hommes, mais chez ces derniers, elles sont plus actives. Il existe deux types de glandes sudorales. Les glandes écrines que l'on trouve sur tout le corps, elles produisent en général un liquide inodore composé à 99% d'eau et 1% de sel et de graisse. Les glandes apocrines, qui sont présentes dans les follicules pileux, des aisselles et des organes génitaux, et deviennent actives à la puberté. La transpiration est régulée par le système nerveux autonome, une partie du cerveau que l'on ne peut pas contrôler. Les causes de la transpiration sont multiples. L'exercice physique, les situations émouvantes ou stressantes, la fièvre et certaines maladies.
Même si la sueur peut devenir un vrai handicap quelquefois, elle reste indispensable pour le bien-être de notre corps. Un conseil, boire beaucoup d'eau. Les médecins préconisent un total de 3 litres par jour. Conserver les aliments au frais permet entre autres de prolonger leur durée de vie et d'empêcher le développement de bactéries et de moisissures. Certains fruits et légumes sont mieux conservés au réfrigérateur. D'autres peuvent survivre loin de la fraîcheur du frigo. Nous nous sommes rendus à Dakar où nous vous avons demandé quels aliments conservez-vous au frigo et lesquels laissez-vous à l'air libre. Des témoignages recueillis par Alison Fernandez-Lekogo.
C'est relatif, hein, parce que les carottes, on peut les laisser dehors, on peut les laisser, aussi dans le frigo. Quoi encore, le chou, idem, frigo ou hors du frigo.
Chez moi, ce que je mets au frigo, l'aubergine, les œufs, la patate douce, les choux.
Pommes de terre.
Les pommes de terre, ça ne va pas au frigo. Les tomates fraîches, si elles ne sont pas transformées, ça ne va pas au frigo. Le persil et l'ail non plus. À part ça, tout le reste va au frigo.
Quand le tomate est frais, normalement, on ne devait pas mettre au frigo. Mais il y a certaines, le met au frigo, mais c'est contrairement à si le tomate ça commence à mûrir. Donc c'est là où tu vas essayer de mettre au frigo. La salade, je le mets au frigo. Parce que la salade, c'est un légume qui se lâche vite. Normalement, on devait manger les fruits frais. Mais contrairement, on n'a pas d'argent pour acheter le fruit frais chaque jour. C'est ça le problème.
Et apparemment, ici en Afrique, on met tous les fruits au frigo. Hein.
Comme certains d'entre vous l'ont dit, les experts réitèrent qu'il n'est pas recommandé de conserver les légumes tels que la tomate fraîche, les pommes de terre, les oignons, l'ail et les aubergines au réfrigérateur. Par contre, cela est nécessaire pour la salade, les haricots, les champignons. Les fruits tels que les fraises et les raisins doivent être conservés au frigo. Mais les fruits à noyaux comme les avocats, les pêches, prunes et mangues se conservent mieux à température ambiante. Quant à la mayonnaise, le ketchup, la moutarde, après les avoir ouverts, il vaut mieux les garder au frais. Le miel et les sauces piquantes vont au placard. Bien conserver les aliments est important pour la santé, bien sûr, mais aussi cela nous aide à éviter le gaspillage alimentaire et financier. L'exercice physique et le régime alimentaire sont des éléments clés pour une vie plus saine, comme le montrent de nombreuses études. Mais voici quelque chose qui pourra vous surprendre. Selon les spécialistes en cardiologie, garder le sourire pourrait améliorer votre santé, qui l'aurait cru. Reportage de Carole Pearson et récit de Claire Morin-Gibourg.
Okay, one, two, three, twirl.
Si quelqu'un sait comment te faire sourire,
all right, big smiles.
C'est bien la photographe Kendra Martin.
Je dis aux gens de faire semblant de rire et ils se sentent stupides de le faire. Mais le résultat, c'est qu'ils rient et ça se transforme en un sourire sincère.
Un grand sourire, c'est bon pour la caméra. Le cardiologue Anand Chokalingam affirme que le sourire est un premier pas dans la lutte contre le stress et ses conséquences potentielles.
Lorsque nous sourions, le câblage du cerveau est altéré. Les substances chimiques libérées sont plus positives.
Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère un ensemble d'hormones, notamment l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline augmente votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Le cortisol augmente le taux de glucose dans le sang et augmente le risque de souffrir de maladies cardiaques. Les personnes stressées doivent changer leurs habitudes néfastes pour le cœur, comme fumer ou trop manger.
Une fois que les gens sourient, ils se détendent. Cette relaxation abaisse directement la pression artérielle et améliore le taux de sucre dans le sang.
Le docteur Chokalingam demande à ses patients de sourire 20 fois par heure.
Quand nous sourions, nous rompons le lien entre le stress et la santé.
Sourire aide aussi Kendra Martin à améliorer son travail.
Me lever le matin avec un sourire au visage, ça va mettre tout le monde de meilleure humeur.
Et cela contribue aussi à améliorer la santé cardiaque de tout le monde.
Gardez donc le sourire et peut-être que vous prenez soin de vous. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons des bébés prématurés et de leur prise en charge. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions.
Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine.
De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres,
nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
C'est la fin de Votre santé, votre avenir. Nous étions en compagnie du docteur Gojka Roglic, experte de l'OMS, avec qui nous avons discuté du diabète de type 1. Nous avons notamment parlé des symptômes de ce type de diabète, les complications que cette maladie peut entraîner, la prise en charge, mais aussi ce que l'Organisation mondiale de la santé fait dans la lutte contre le diabète. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierrot et de Nelson Lopez qui était à la console. Nani Totalani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
You ain't been up off that porch now. Can't nobody feel me now.
nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
VOA Afrique.